Europe 1, il est 6h.
Ce qu'on a, c'est l'apparition de la nature qui est revenue au galop. J'avais de l'herbe qui pousse, tous qui pourraient risquer d'être absorbés par les réacteurs lors d'un décollage ou un atterrissage.
L'aéroport d'Orly, de nouveau en piste, reprise de l'activité demain. Premier vol dès 6h du matin. Nous étions hier dans les coulisses de la réouverture, une très grosse logistique. Olivier Véran, prêt à injecter 6 milliards d'euros pour améliorer le sort des soignants. Premier chiffre issu du Ségur de la Santé. Emmanuel Macron est-il intervenu dans une enquête judiciaire visant son bras droit Alexis Keller? L'association Anticor s'interroge, vous l'entendrez, la justice relance l'enquête sur des soupçons de conflit d'intérêts. Didier Raoult, inflexible face aux députés de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. 3 heures d'audition de défense de l'hydroxychloroquine et un conseil scientifique accusé de collusion avec un laboratoire pharmaceutique.
Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19.
Dans ce journal, on vous explique le dispositif d'activité partielle longue durée présenté hier aux partenaires sociaux. Attention, la clé main libre de votre voiture peut vous trahir. Des centaines de systèmes ouvrent les portes de votre véhicule aux voleurs.
C'est un jeu d'enfant dans la mesure où la technologie utilisée actuellement est vraiment basique. Une fois que les boîtiers ont été fabriqués, c'est tout à fait faisable par un amateur.
Et puis le tout premier lauréat du tout premier prix littéraire Europe 1 GMF à découvrir en fin de journal.
Juste après ce journal, après 3 mois de fermeture, réouverture de la Tour Eiffel aujourd'hui, nous appelons l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel. Rien que ça, c'est mon invité inattendu. 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassen, la chaleur qui s'empare du pays et des réseaux sociaux. Il est 6h02 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Premier vol dans tout juste 24 heures. Demain, 6 heures, un voyage vers Porto marque la fin d'un sommeil de 3 mois pour Orly, deuxième aéroport français. C'est la réouverture. Les pistes accueillaient depuis le 1er avril quelques vols de rapatriement et de transport de matériel sanitaire.
Reprise progressive. Un seul terminal reprend l'activité. 70 vols sont prévus contre 600 habituellement à cette période. Comment les salariés relancent-ils cette énorme machine? Aurélien Fleureau était dans les coulisses des tout derniers préparatifs.
On avait vraiment l'impression d'avoir un aéroport à l'abandon, quoi.
La piste d'Orly 3 a beau être flambant neuve, elle a pris la poussière. Alors pour tout nettoyer, Didier Amirou a 2 armes, la balayeuse de son camion et ses yeux, 20 ans d'expérience.
Ce qu'on a, c'est l'apparition de la nature qui est revenue au galop. Dans les joints, vous avez de l'herbe qui pousse, tous pourraient risquer soit d'être absorbés par les réacteurs lors d'un décollage ou un atterrissage.
Après avoir croisé quelques tracteurs en train de tondre les pelouses près des tarmacs, direction le sous-sol d'Orly avec Vincent Moussinet, responsable du tri-bagage.
Le tapis de bagage, c'est comme une voiture, ça a besoin de continuer à tourner en permanence, sinon ça crée des usures prématurées des mécanismes et de ce fait, on pourrait redémarrer mal notre exploitation.
Et pour accueillir les passagers, les boutiques se préparent également, vérification des dates de péremption, installation des bouteilles et anticipation des nouvelles mesures sanitaires. Mathias Castillo, manager des Duty Free.
Sur une boutique comme celle-ci qui fait 1500 m², on peut accueillir 160 passagers de manière simultanée avec un comptage des entrées et mais également des sorties pour pouvoir adapter en permanence le flux.
Une reprise progressive avec 8 fois moins d'avions que d'habitude. Conséquence, seuls 60 des 400 salariés des boutiques d'Orly 3 reviendront travailler demain.
Et autre réouverture aujourd'hui, celle-ci, la Tour Eiffel à partir de 10h, fermée depuis le 13 mars. Seules les visites par les escaliers seront possibles et seulement jusqu'au deuxième étage avec port du masque obligatoire.
C'est pour ça les baskets ce matin, Jérôme Lacroix, les escaliers de la Tour Eiffel. Près de 3 heures face aux députés de la commission d'enquête hier. Didier Raoult a défendu son traitement à base d'hydroxychloroquine. Le médiatique scientifique marseillais, qui a par ailleurs dénoncé la politique des tests en France, il a accusé également le conseil scientifique de conflit d'intérêts, une instance qu'il a quittée dès le début de la crise.
Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. C'est vrai, moi, j'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. Et ces relations de familiarité ou de départ ensemble, de voyage ensemble, amènent à une vision et à un écosystème qui est d'une nature à changer le jugement des choses.
Une première annonce issue du Ségur de la Santé, la consultation pour améliorer la situation des soignants. Le ministre Olivier Véran est prêt à injecter 6 milliards d'euros pour augmenter les salaires. Précision à venir hein, toutefois quant à la répartition entre hôpitaux, EHPAD publics, mais aussi avec le secteur privé. Un reconfinement de la Guyane aurait un coût social qui ne doit pas être sous-estimé. Les mots de la ministre Annick Girardin sur place depuis hier, elle est réservée quant à une nouvelle isolation générale du département français d'Amérique du Sud.
Où l'épidémie de coronavirus prolifère toujours, hein, 234 nouveaux cas en 24 heures.
En métropole, 11 décès supplémentaires, mais toujours la baisse des patients en réanimation. La crise sanitaire qui frappe fort l'emploi en France. Pour tenter d'en sauvegarder un maximum, Emmanuel Macron réunissait hier à l'Élysée les partenaires sociaux. Et il leur a présenté les contours précis du nouveau dispositif d'activité partielle, activité partielle de longue durée.
Oui, applicable dans une période qui peut aller jusqu'à 2 ans. Des salariés indemnisés à 84% de leur salaire net. Dispositif effectif à partir du 1er juillet, ça arrive très vite, il nécessitera la négociation d'un accord. Écoutez les explications d'Olivier Samin.
L'élément clé du dispositif, c'est l'accord qui devra être conclu avec les syndicats. Sans cet accord, pas d'aide de l'État à l'entreprise qui est confrontée à un trou d'air et qui veut garder ses salariés dans l'optique du rebond de son activité dans un délai de 6 mois à 2 ans. Cet accord, il devra fixer des engagements en termes d'emploi. Mais attention, pas nécessairement le maintien de tous les emplois. Il pourra y avoir un plan de départ volontaire, voire des licenciements, si les syndicats, rejoignant la direction, conviennent que c'est nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est un pari sur le dialogue social, dit l'entourage d'Emmanuel Macron. Une fois l'accord conclu, et à condition que la baisse d'activité reste contenue en dessous de 40%, l'entreprise maintiendra la rémunération de ses salariés au même niveau que ce qui est prévu dans le chômage partiel actuel. Autrement dit, 100% du salaire net pour ceux qui sont payés au SMIC et 84% pour ceux qui gagnent plus que le SMIC. Et il suffira ensuite à l'entreprise de se faire rembourser par l'État à hauteur de 80% les sommes qu'elle aura dépensées et même 85% si l'accord est conclu avant le 1er octobre prochain.
Et concernant le régime classique du chômage partiel, il n'indemnisera plus les salariés qu'à hauteur de 72% du salaire net à partir du 1er octobre.
C'est à la une ce matin, 7h40, l'homme qui a inspiré ce chômage partiel de longue durée, le patron de l'UIMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie, l'industrie qui veut justement préserver les emplois en prévision d'une relance. 8h15, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui répond à vos questions. Envoyez-les déjà sur le hashtag Europe 1.
Les juges d'instruction reprennent les investigations dans l'affaire Alexis Keller. Le bras droit d'Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée, est soupçonné de conflit d'intérêts. Il est accusé d'avoir dissimulé ses liens familiaux avec l'armateur MSC alors qu'il exerçait des fonctions au ministère de l'Économie.
Information judiciaire ouverte après une première enquête classée sans suite. Emmanuel Macron avait à cette époque rédigé un courrier pour prendre la défense d'Alexis Keller. Le président est-il intervenu dans l'enquête, remettant en cause la séparation des pouvoirs? La question que se pose Élise Van Beneden, présidente de l'association Anticor, à l'origine de la toute première plainte.
C'est normal que M. Keller organise sa défense. Ce qui interroge, c'est que cette attestation, ce courrier, est arrivé à la fin de l'enquête préliminaire, après un an d'enquête, alors que dans l'enquête préliminaire, il y avait déjà des attestations. Donc la question, c'est est-ce que cette lettre de M. Macron a changé la donne, a changé les conclusions de l'enquête, si elle les a changées? Est-ce qu'elle les a changées parce qu'elle a apporté un nouvel éclairage? Ou est-ce que les faits qui sont attestés par cette lettre étaient déjà présents au dossier? Et du coup, est-ce que cette intervention était d'une autre nature? D'une nature qui est susceptible de remettre en cause la séparation des pouvoirs.
Élise Van Beneden, présidente de l'association Anticor, jointe pour Europe 1 par Salomé Legrand.
Europe 1, il est 6h08.
Le second tour du scrutin municipal, J-3, 5000 communes concernées, dont Lyon, où les écolos ont une vraie chance de l'emporter. 28% des voix au premier tour pour le candidat Grégory Doucet.
Face à lui dimanche, deux candidats. L'ancien gymnaste Yann Cuchera, candidat de la majorité, allié aux Républicains, poulain de Gérard Collomb. Et puis Georges Kepenekian, dissident d'En Marche, il exprime sa crainte de voir la ville tomber aux mains des Verts.
Je crois qu'il y a une manière de penser l'écologie. On a compris qu'il y avait un vrai problème. La question, vous voyez, c'est plutôt convaincre que contraindre. Il faut sûrement des éléments structurants. Mais prendre en charge, c'est pas seulement d'expliquer à quelqu'un que si on le sauve pas là dans la semaine, c'est cuit pour lui. Donc, je crains qu'il y ait derrière une volonté affirmée, peut-être une capacité à aller trop loin trop vite.
Ils sont trop dogmatiques peut-être aussi.
Oui, ils sont radicaux, oui.
Georges Kepenekian au micro européen de Jean-Luc Boujon à Lyon. En Ile-de-France, trafic très perturbé aujourd'hui sur le RER B après qu'un train sans voyageurs a déraillé hier soir non loin de la station d'Enfer-Rochereau dans le sud de Paris. Aucun blessé. 1 million de voyageurs franciliens empruntent chaque jour cette ligne.
Europe 1.
Dans un tout petit instant, la suite du journal et l'énorme faille des clés main libres de vos voitures. Attention, elles peuvent offrir un boulevard aux voleurs.
Et puis le tout premier lauréat du prix littéraire, Europe 1 GMF.
A tout de suite.
Europe 1, il est 6h11, la suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Ce petit boîtier glissé dans votre poche ou votre sac à main, la clé main libre qui déclenche l'ouverture des portes de votre véhicule quand vous en êtes proche, eh bien ce système, il comporte des failles.
Le magazine Que Choisir le révèle ce matin, 330 modèles testés et seulement 5 inviolables. Les autres laissent littéralement porte ouverte aux voleurs, Jean-Sébastien Soldaini.
En temps normal, l'ouverture se déclenche à seulement quelques mètres de la voiture, mais deux voleurs équipés chacun d'un boîtier parviennent à étendre cette portée à plus de 100 mètres. Si vous êtes attablé à une terrasse ou bien pendant que vous dormez et que vos clés se trouvent juste derrière votre porte d'entrée, ils arrivent à faire croire à l'ordinateur de bord que vous êtes à proximité. Les portes s'ouvrent, il est même possible de démarrer. Lars Lee, ingénieur chez Que Choisir, affirme qu'il ne lui a fallu qu'une centaine d'euros pour acheter des composants accessibles à tous.
C'est un jeu d'enfant dans la mesure où la technologie utilisé actuellement est vraiment basique. Une fois que les boîtiers ont été fabriqués, c'est tout à fait faisable par un amateur. La voiture se vole en deux minutes maximum. Ça montre que ces systèmes sont peu fiables et chers.
Les constructeurs conscients du problème travaillent à des parades, notamment en remplaçant les systèmes main libre par votre smartphone ou alors en utilisant des longueurs d'onde différentes, ce qui permettrait à la voiture de savoir précisément à quelle distance se trouve la clé. En attendant, il est conseillé de désactiver le système ou de placer le dispositif dans une boîte spéciale comme pour les cartes bancaires sans contact.
10 à 11 milliards de dollars, la somme astronomique que Bayer, groupe allemand de chimie, consent à verser à des plaignants américains pour solder plus de 100 000 litiges concernant le Roundup, pesticide à base de glyphosate commercialisé par sa filiale Monsanto. L'accord doit mettre un terme aux trois quarts des 125 000 plaintes au total sur l'herbicide. Les plaignants le disent responsable des cancers dont ils souffrent.
Il est le tout premier nom inscrit au palmarès du prix littéraire européen GMF. Nouvelle récompense littéraire, la nôtre, on n'est pas peu fiers. Bravo à Carla Derold, 57 ans, lauréat pour son roman Le Théâtre des Nuits, publié chez Stock. Présentation de ce roman, Nicolas Caro, qui nous en dit plus sur l'auteur.
Carla Derold a été éditeur. Il a notamment cofondé les éditions Vendémiaire. Et il n'en est pas à son premier roman. On le connaît notamment pour un joli succès en 2007. Ça s'appelait « Mort aux cons », un type qui décidait d'en finir avec les cons. Tout un programme. Là, rien à voir. Le Théâtre des Nuits, c'est l'histoire de Blanche Beaulieu, une comédienne à Paris. On est en 1916. Elle essaye d'être actrice, mais les temps sont durs. C'est la guerre. Elle vit plutôt des petites arnaques de son compagnon, Victor, un malfrat. Mais un jour, un metteur en scène propose à Blanche de l'accompagner avec d'autres comédiens sur le front pour divertir les soldats. Elle y va, elle y rencontrera notamment Sarah Bernhardt, qui a réellement joué devant les soldats pendant la Grande Guerre. C'est ça le grand intérêt de ce roman. Carla Derold est aussi historien et il construit son roman, il intègre sa fiction dans la grande histoire. Évidemment, il y a aussi une histoire d'amour. Ça donne un livre qui alterne entre la légèreté du théâtre et du jeu et la gravité de la guerre.
Nicolas Caro est l'auteur, Carla Derold, lauréat donc de ce tout premier prix littéraire européen GMF. Carla Derold sera mon invité à 6h40. Il a reçu ce prix ici, dans nos locaux, hier soir. Et il nous fait le plaisir d'être là à 6h40. On va parler du livre, évidemment, du prix aussi. Puis j'ai quelques petites questions à poser à l'historien, relatives à l'actualité. L'historien Carla Derold, en l'occurrence. 6h40, tout à l'heure, sur Europe 1. Merci Jérôme Lacroix. Il est 6h14.
Europe 1. Mathieu Béliard est sur Europe 1. La matinale, la suite.
On va prendre de la hauteur ce matin.
Rendez-vous sur la tour Eiffel.
La scène à nos petites. Ça balance comme ça, c'est Charles Trenet. Attention, parce que la tour Eiffel rouvre ses portes, mais il faut monter à pied. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc le Charles Trenet un peu essoufflé, arrivé en haut. On va poser la question, tiens, un homme qui arpente les escaliers de la tour Eiffel régulièrement, parce qu'il n'en est pas peu fier non plus. C'est Savin Yetman Eiffel, réalisateur, scénariste, arrière petit-fils de Gustave Eiffel. Mon invité inattendu dans un instant.
Europe 1, il est 6h17 et c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Trois mois que le monument le plus célèbre au monde était fermé au public. Réouverture de la Tour Eiffel aujourd'hui à 10h. Après les restaurants, les cinémas, les musées, les théâtres, c'est aussi, oui, un symbole de la capitale déconfinée dont nous parlons ce matin.
Et pour en parler, votre invité inattendu, Mathieu Béliard, c'est Savin Yetman Eiffel, réalisateur, scénariste et arrière petit-fils de Gustave Eiffel.
Bonjour Savin Yetman Eiffel.
Bonjour Mathieu.
On a bien compté les arrières, il y a trois arrières, petit-fils de Gustave Eiffel. Quel héritage, dites donc. Avant toute chose, la tour Eiffel n'appartient plus à votre famille depuis 1979, mais vous, les héritiers, vous voyez comment, comme des garants de la mémoire de Gustave Eiffel ?
C'est un héritage qu'on est assez fiers de porter. Donc, tous ensemble, on s'est regroupé au sein d'une association qui s'appelle l'Association des descendants de Gustave Eiffel et on mène beaucoup d'actions pour promouvoir sa mémoire, défendre ses œuvres qui sont parfois en danger d'être détruites et puis parfois défendre son patronyme aussi par des procès quand c'est vraiment nécessaire.
Oui, quand il est usurpé peut-être ce nom. Alors, une aussi longue fermeture, il n'y a pas de menace de destruction de la Tour Eiffel, hein, ça on est tranquille, mais effectivement, il ne faut pas oublier que Gustave Eiffel.
Des menaces de destruction, parce que la concession initiale était de 20 ans, et même au moment de l'exposition universelle de 1900, les détracteurs de Gustave Eiffel se sont réveillés et ont fait des pressions pour qu'à nouveau on remette en question l'existence de la tour et qu'elle soit détruite.
Oui, c'est plus sur la table, hein, je vous rassure, hein. ça va, Yotman Eiffel. Alors, une aussi longue fermeture, 13 mars, hein, la fermeture de la tour Eiffel, c'est parfaitement inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, on est d'accord?
Absolument, on n'a jamais vu ça et c'est toute la France qui a été touchée bien sûr par cette épidémie, mais pour nous descendants et pour tous les gens qui travaillent sur la tour, il y a plus de 700 personnes qui travaillent sur la tour, c'est émotionnellement c'était terrible de voir cette tour vide alors que chaque année d'habitude il y a entre 6 et 7 millions de visiteurs qui viennent la voir.
Avec des conditions strictes de réouverture, je le disais en souriant, c'est limité aux escaliers, hein. On n'a pas déconfiné les ascenseurs de la tour Eiffel encore.
Absolument, donc on peut monter jusqu'au deuxième étage, mais ça permet déjà de vraiment bien profiter de la tour. Ça fait pas mal de 600 ou quelques marches à monter. Donc
674 on a quoi,
Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Donc on monte à 115 mètres, on a une très belle vue sur Paris et c'est déjà une très belle manière de découvrir la tour et peut-être mieux qu'en prenant les ascenseurs d'habitude parce qu'on peut vraiment profiter de toute la structure, de la voir de l'intérieur, de comprendre un peu comment elle est construite.
Oui, au total, il y a 1665 marches, hein, sur les trois étages pour arriver au sommet de la tour Eiffel. Jusqu'au deuxième, 674 marches à gravir. Sincèrement, vous montez souvent la tour Eiffel à pied ?
Alors j'y vais, oui, personnellement j'y vais assez souvent à pied. Je vais souvent à la Tour Eiffel parce que j'aime beaucoup ça. Et l'affaire à pied, c'est on redécouvre à chaque tournant parce que l'escalier tourne sur lui-même au fur et à mesure qu'on monte. On a une vue différente sur Paris. On voit un autre aspect de la structure intérieure. Et c'est vraiment peut-être la manière la plus plaisante pour moi de découvrir la tour.
Eh ben écoutez, certains vont le découvrir. Il n'y a plus cette facilité de l'ascenseur pour le moment dans cette première étape du déconfinement de la Tour Eiffel. Alors il faut aussi le savoir. Il y a des règles de sécurité sanitaire assez strict, je les donne au passage. Le port du masque est obligatoire au-delà de 11 ans. Les escaliers, évidemment, ça on l'a dit. Le nombre de visiteurs est limité. Il y a une signalétique aussi, un marquage au sol pour ne pas qu'on se croise nécessairement dans ces escaliers. L'association des descendants de Gustave Eiffel, dont vous êtes le représentant ce matin, 70 personnes majeures qui descendent de Gustave Eiffel, qui répertorient les ouvrages, qui se battent pour sa mémoire. Ça donne des avantages, des droits?
Alors, pas particulièrement, c'est surtout de responsabilité. Dans mon cas personnel, comme je suis membre du bureau de l'association, on est quelques-uns à avoir une carte coupe-fil pour monter la tour. Et c'est pour ça aussi que je peux en profiter aussi facilement. Même si je passe à côté, je peux monter tout de suite au sommet.
Oui, en période de forte affluence touristique, c'est pas du luxe. Mais il y a quelques anecdotes. Dans le passé, certains des héritiers qui avaient peut-être un ou deux arrières en moins que vous par rapport à Gustave Eiffel. Certains en ont profité. Je voyais que votre papa avait pu privatiser carrément une partie de la tour Eiffel.
Oui, en fait, mon père, j'ai un peu moins profité, je suis arrivé un petit peu tard pour ça, mais mon père, par exemple, avait tous ses anniversaires qui étaient fêtés au premier étage de la tour, donc on bloquait une partie de la tour, tous ses petits amis venaient, ils faisaient la fête là, et ma tante aussi, pour ses 18 ans, a fait un grand bal, aussi au premier étage qui avait été privatisé, donc il y a des photos, ils sont tous en smoking, en grande robe, etc., ça devait être assez classe.
Ah ouais, c'est très chic pour le coup. Alors il y a aussi cette belle histoire, parce que Paris, c'est une ville qui incarne le romantisme à l'international. Alors j'imagine le nombre de touristes américains, chinois ou même français, qui font leur demande en mariage au pied de la Tour Eiffel, au sommet de la Tour Eiffel. Vos grands-parents y ont passé leur nuit de noces.
Tout à fait, c'est une anecdote qui est assez sympa. Mais, donc en 1935, ils se sont mariés, j'ai des photos, on les voit en train de prendre le champagne au petit matin au troisième étage de la tour, puisque Gustave Eiffel avait un appartement privé au dernier étage de la tour qui n'existe plus, on ne voit plus qu'un petit bout maintenant quand on visite à travers une fenêtre, mais tout un étage de la tour était donc un appartement privé avec un lit, avec de l'eau, avec de quoi manger, de quoi faire des expériences aussi, puisque Gustave faisait des expériences sur la tour Eiffel. Et beaucoup de gens très connus sont passés dans cet appartement qui n'existe plus aujourd'hui.
Qui n'existe plus aujourd'hui et pourtant il devait être pas mal cet appartement, pas de soucis de voisinage, pas de problème de bruit de là-haut, en haut de la tour Eiffel. Ça va Yetman Eiffel, merci beaucoup.
Ça fait un plaisir.
Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Nous étions en direct avec Savin Yetman Eiffel, qui est réalisateur, scénariste, mais qui a donc sur son CV cette ligne arrière petit-fils de Gustave Eiffel. La tour Eiffel qui rouvre ses portes, ses escaliers à 10h ce matin, 6h23.
Europe 1. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux, il fait chaud en France. Cela fait réagir les internautes. Compilation des citations de température par Paul Lassen dans un instant sur Europe 1. Europe 1, il est 6h25, vous écoutez Mathieu Béliard.
Et Paul Lassen qui est avec nous comme tous les jours à 6h25. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec vous. La vague de chaleur touche la France depuis hier et l'arrivée de ces fortes températures fait beaucoup réagir les internautes.
Oui, et comme toujours sur les réseaux sociaux, d'un côté on a les pas contents, les nostalgiques de l'hiver comme Inès par exemple, qui comme moi préfère les temps de pluie où tu crèves de chaud, demande-t-elle. Même constat pour Sacha, j'ai eu chaud, j'ai ouvert la fenêtre mais il fait encore plus chaud, qui veut bien m'acheter un billet direction Pôle Nord. Et de l'autre côté, et ils sont bien plus nombreux, les heureux. On n'a pas pu sortir pendant les beaux jours du confinement. Enfin, on va en profiter, écrit un internaute. Samy, lui, s'étonne de la complainte de certains. Quand il pleut, vous vous plaignez. Là, il y a 3 jours de beau temps. Vous n'êtes pas content. C'est ça l'été, les gars. Enfin, Mathias voit un gros avantage à ces fortes chaleurs. Après un confinement visiblement bien nourri, j'espère bien que la chaleur fera fondre ma graisse.
C'est élégant, façon magret. Bon, plein d'espoir, Mathias. On ne parle pas officiellement de canicule, mais si les températures descendent peu pendant la nuit, ça c'est pendant les 1, 2, 3, je vais y arriver. La définition de la canicule, c'est que les températures baissent peu pendant la nuit aussi. Certains, justement, pensent à leur sommeil qui est compliqué.
Oui, et malgré ces fortes chaleurs, il faut savoir que la couette, la bonne grosse couette, a la côte chez les internautes. Il aura beau faire 39 000 degrés, je dormirai encore avec ma couette, dit cette jeune femme. Pour Fokis, peu importe la température, l'élite dormira toujours avec une couette. Une élite dont fait visiblement aussi partie Lila, qui dort toujours avec une couette alors qu'il fait 30 degrés, je répète, qui fait partie de l'élite. Non,
c'est bon, ça y est, on s'est approprié la couette du côté de l'élite.
Voilà, c'est ça. Sauf que tout le monde n'est pas si à l'aise avec la chaleur. Du coup, certains proposent des conseils pratiques. Celui de Vacarne sur Twitter. J'ai une technique contre la chaleur pour dormir. Mettez un drap de bain dans votre congélateur avant de dormir et allez le chercher après pour dormir avec. Même technique avec les oreillers, avis aux amateurs de fraîcheur.
Oui, car pour beaucoup, chaleur, ça rime aussi avec galère.
Hein. Oui, les petites galères du quotidien. Par exemple, comment s'habiller ? Je ne vais plus porter de t-shirt gris, sinon ça va me faire des traces de transpiration, dit cet internaute. La question des transports en commun...
Vous avez bien polo gris aujourd'hui, Paul.
Oui.
Tout va bien. Jusqu'ici,
tout va bien. Il fait encore frais à cette heure-là. La question des transports en commun revient également beaucoup. El Chapo Lolo interpelle les usagers. De fortes chaleurs sont attendues dans les transports. Pensez à mettre du déodorant, s'il vous plaît. Un internaute interpelle lui directement. La RATP, il fait super chaud dans vos métros. C'est irrespirable, surtout avec les masques. Donc mettez la clim. Car oui, c'est l'autre point soulevé par les réseaux sociaux. La difficulté de porter le masque avec cette chaleur. Soit je meurs du Covid, soit je meurs d'asphyxie avec mon masque. C'est trop avec la chaleur d'aujourd'hui, écrit Marvin. Certains, comme Paul, ce n'est pas moi, ont trouvé une solution vraiment toute simple au problème. Quand j'ai trop chaud avec mon masque, je l'enlève et je plonge dans la piscine. Ça va mieux après, sympa, on en rêve tous. Et pour ceux qui n'ont pas de piscine, voilà un petit top 5 des choses rafraîchissantes proposées par le community manager du fleuriste Interflora.
D'accord.
Un ventilateur, un cocktail bien frais, une piscine, une glace... Et un petit « je préfère qu'on reste amis quand vous déclarez votre flamme à votre bien-aimé ».
Oui, ça refroidit très nettement. Merci. Merci Paul Lassen. Alors j'ai toujours une fascination moi pour les pseudos sur Twitter. El Chapo Lolo.
Oui.
Ouais.
Oui, c'est original.
Chapo Lolo, c'est vous, non, Laurent Cabrol?
Chapo Lolo Cabrol.
Quel calor, Lolo.
Non mais alors il y a un truc qui est magique quand même, c'est qu'on est bien français. Hein. Même sur température de 35 degrés, on va réussir à s'engueuler. Ça c'est quand même un truc qui est magique. Laurent Cabrol.
Et à dormir sur la couette, vous savez. Vous connaissez la grosse astuce, c'est quand on dort sur la couette, c'est un travers, mais c'est un travers sain, vous voyez. C'est pour ça que, vous l'avez compris, on se met sur la couette quand il fait trop chaud.
Elle a mis du temps à arriver au cerveau, pardonnez-moi Laurent, c'est à cause de la chaleur.
Bon alors, mais j'ai pas grand-chose à vous dire. Si quand même, les orages vont arriver dans l'après-midi sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, les Charentes, l'Aquitaine et le Piémont-Pyrénéen. Ce soir, nous les trouverons sur la Normandie, le Limousin, les Cévennes et les Alpes. Ce sont des orages qui peuvent être violents, mais ils ne sont pas très nombreux. Et puis du soleil sur le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne. Sur Paris, il pourrait y avoir une petite zone orageuse dans la soirée, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, il va faire très chaud à Paris, ça sera du 35 degrés. Très chaud à Lyon aussi, hein, de 35. 35 à Bourges, 36 à Pithiviers. Nous sommes là dans le Loiret, 34 à Nevers, 33 à Toulouse, 32 à Bordeaux, 31 à Nancy, 30 à Lille, 29 du côté de Belfort et 27 du côté de La Rochelle. Voilà pour une journée d'été dans toute sa dimension. Ceux qui n'aiment pas la chaleur, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer.
Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1 et François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est 6h30.
Trouver les cas vite, les isoler vite, trouver les contacts vite.
Continuer à tester pour éviter une deuxième vague ou l'apparition de gros clusters, c'est la recommandation des scientifiques. L'affaire avait été classée, la voilà rouverte sur les possibles conflits d'intérêts d'Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron depuis ses années au ministère de l'économie. Et puis, le retour de la menace américaine de taxer les produits européens, notamment le haut de gamme français, explication à suivre.
Et question de droit et réponse de l'avocat d'Europe 1, la monétisation des jours de congé et des RTT pour cause de Covid. Possible, Roland Pérez après ce journal. À 6h40, Karl Lagerfeld, auteur du Théâtre des Nuits chez Stock, tout premier lauréat du tout nouveau prix littéraire européen GMF. Et puis nous vous emmenons aux États-Unis, en Hongrie et en Turquie, dans la revue de presse internationale avant 7h. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après en avoir cruellement manqué pendant des semaines, la France a désormais des dizaines de milliers de tests disponibles. 30 000 tests sont pratiqués par jour aujourd'hui en France.
Or, début juin, le Conseil scientifique en recommandait 50 000 par jour pour contrôler complètement l'épidémie. Alors, est-ce que la France teste suffisamment ? Pauline Jacquot, le risque est de ne pas voir arriver une éventuelle deuxième vague.
Des centaines de milliers de personnes atteintes du coronavirus échappent aujourd'hui au radar. C'est la grande faille de la stratégie française en ce moment, selon certains spécialistes. Il faut absolument tester, comme en Allemagne, en Corée du Sud, à Taïwan, à très grande échelle, dans les villes, dans les rues, et ne pas laisser des malades passer entre les mailles du filet, selon l'épidémiologiste Catherine Hill.
Si on avait testé comme les Allemands, on aurait eu 640 000 cas. Ça vous fait 450 000 personnes qui ont échappé au système. Et là-dedans, il y a des asymptomatiques. Si vous avez des cas asymptomatiques, assez contaminants, qui en contaminent d'autres, ça peut faire boule de neige jusqu'à ce qu'il y ait un cas symptomatique. À ce moment-là, on va s'en apercevoir. Ça va très vite. En 10 jours, l'essentiel des contaminations, c'est fini. Donc il faut trouver les cas vite, les isoler vite, trouver les contacts vite.
C'est uniquement à cette condition, selon elle, que l'épidémie sera contrôlée en France. Il faudrait déjà, souligne le professeur Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, que toutes les personnes qui présentent des symptômes du coronavirus aillent se faire tester. Ce qui n'est, dit-il, pas le cas aujourd'hui.
6 milliards d'euros mis sur la table hier dans le cadre du Ségur de la Santé, cette négociation express menée pour augmenter les salaires des soignants et qui doit aboutir pour le mois de juillet. On est dans le Money Time, c'est le commentaire d'un responsable syndical cité par l'agence France Presse. Selon lui, la négociation peut commencer enfin puisqu'on connaît le bas de la fourchette.
Autre dossier social qui avance, celui du chômage partiel de longue durée. Les nouvelles règles ont été données hier par Emmanuel Macron.
Pour continuer à être bien indemnisé en tant que salarié et bien remboursé par l'État quand on est un employeur, il faudra qu'il y ait un accord signé dans l'entreprise ou au niveau de la branche professionnelle. À la sortie de l'Élysée, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, estimait que ce n'était pas assez protecteur.
De l'aide publique qui a pour vocation à protéger les emplois et les compétences, nous demandons à ce qu'elle soit conditionnée, soumise à contrôle et à sanction quand les conditions ne sont pas remplies. Et la condition, c'est pas de suppression d'emploi, bien évidemment. Et c'est là le défaut. C'est l'accord d'entreprise qui devra prévoir les engagements en matière d'emploi. Mais je le redis, quand il y a une crainte sur la perte de l'emploi, vous n'êtes pas en position de force pour négocier au niveau de l'entreprise.
Le numéro 1 de FO, Yves Verrier, au micro d'Élise Dangean. Une enquête rouverte après des révélations dans la presse et une plainte de l'association Anticor. On reparle de l'affaire Alexis Kohler.
Le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron a-t-il agi en toute indépendance lorsqu'il était directeur de cabinet du ministre de l'économie ? C'est ce que doivent déterminer les juges d'instruction, Guillaume Biais.
C'est une affaire de famille et de possibles conflits d'intérêts. En 2010, Alexis Kohler travaille au sein de l'Agence des participations de l'État et à ce titre, il siège notamment au conseil d'administration de STX, les chantiers navals de Saint-Nazaire. Or, le principal client de STX, c'est la société de transport maritime MSC, avec laquelle Alexis Kohler a des liens familiaux qu'il n'aurait pas clairement affichés d'après l'association Anticor. Un possible conflit d'intérêts, surtout lorsqu'il s'agissait de voter des décisions favorables à MSC. 2012 à 2016, Alexis Kohler est au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, d'abord Pierre Moscovici, puis Emmanuel Macron. À l'époque, l'avenir des chantiers navals fait l'objet de nombreuses réunions et Alexis Kohler est au courant de tout. Quand il quitte Bercy en 2016, il rejoint le transporteur MSC comme directeur financier et participe encore l'année suivante à une réunion au ministère sur le rachat de STX. Pour sa défense, Alexis Kohler assure qu'il a toujours informé sa hiérarchie de ses liens familiaux qui pouvaient présenter un conflit d'intérêts et il assure que justement, il ne participait pas au vote concernant MSC et les chantiers navals.
Guillaume Biel, les Américains vont-ils devoir payer beaucoup plus cher nos champagnes ou encore nos sacs de luxe ?
La Maison-Blanche menace de taxer une fois de plus les produits européens et notamment les produits français. La décision ne sera pas prise avant fin juillet. C'est une guerre commerciale qui n'en finit pas. C'est la suite de l'interminable dossier des subventions européennes à Airbus qui aurait pénalisé Boeing, l'américain. Alors pour l'instant, ce sont des menaces de Washington, Emmanuel Dutheil.
La Maison-Blanche peut avoir la main lourde, elle a déjà taxé, dans le cadre de ce différend sur les subventions à Airbus, des produits européens et français. Nos vins non pétillants de moins de 14 degrés d'alcool sont par exemple aujourd'hui plus taxés, ce qui pénalise bien évidemment les ventes. Très énervé par notre volonté de taxer les géants américains de la tech, Donald Trump a aussi menacé, c'était en décembre dernier, de frapper cette fois nos groupes de luxe ou les constructeurs automobiles allemands. Mais pour le moment, ces menaces sont restées lettre morte. Là, la Maison-Blanche sort donc à nouveau la carte du dossier Airbus pour menacer une nouvelle fois. Sont concernés des produits venant de France, d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni. On parle de produits comme des olives, de la bière, du gin ou encore des produits de luxe. Les prix pourraient tout simplement doubler. Des groupes comme LVMH qui vont des spiritueux aux plus grandes marques de vêtements de luxe pourraient être touchés. Rémy Cointreau ou Pernod Ricard aussi à Paris. On regarde avec la Commission européenne cette nouvelle menace et on le dit. Très clairement, on n'hésitera pas à réagir avec des taxes sur les produits américains.
Un mot, si vous devez prendre votre voiture aujourd'hui dans l'agglomération parisienne, il faut avoir une vignette critère 0, 1 ou 2 en raison d'un épisode de pollution. Paris, où la Tour Eiffel rouvre aujourd'hui à 10h, c'est par les escaliers uniquement que l'on accédera au deuxième étage, ça tombe bien en pleine pollution. Le troisième reste pour l'instant inaccessible puisque seuls les ascenseurs permettent de s'y hisser.
Toujours une bonne excuse pour ne pas monter à pied, François Geffrier. Il attendra l'ascenseur, c'est ça. François Geffrier, réouverture de la Tour Eiffel. Nous serons sur place tout à l'heure, réouverture à 10h. Merci François, c'était le journal, il est 6h37.
Une question de droit qui trouve sa réponse avec l'expert juridique d'Europe 1, Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Et bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les salariés qui ont été placés en chômage partiel et qui le sont encore dans certains secteurs de l'économie comme le tourisme et les spectacles, ont-ils la possibilité de monnayer une partie de leur congé payé alors qu'ils ont été placés en congé forcé ?
Oui, c'est tout à fait possible, hein, Mathieu, et c'est une fois de plus la loi qui a instauré diverses mesures liées à la crise sanitaire qui l'autorise. Ainsi, des jours de congés payés et même les jours de récupération des heures au-delà des 35 heures qu'on appelle les RTT peuvent être monétisés et ce afin de compenser la diminution de rémunération subie par les salariés placés justement en activité partielle. En fait, dans le cadre de ce dispositif qu'on commence à bien connaître, Mathieu, les salariés reçoivent une indemnité équivalente à 70% de leur rémunération horaire brute. Cela correspond en moyenne à 84% du salaire net, alors que certains salariés bénéficient quant à eux d'un salaire payé à 100% en raison des accords d'entreprise ou accords de branche. Et pour ces salariés également, le paiement des congés payés non pris peut s'effectuer, mais cette fois au profit d'un fonds de solidarité qui vient en aide aux salariés touchés de plein fouet par la crise sanitaire avec la baisse automatique des rémunérations. Alors pour mettre en place ce droit d'être rémunéré de ces congés non pris, un accord d'entreprise ou de branche devra être négocié et mis en place.
Et Roland, comment ensuite ce dispositif prend forme en pratique ?
Alors en pratique, une fois l'accord d'entreprise installé, il est prévu pour les jours de congés payés non encore pris, que seule la partie des jours qui excède 24 jours ouvrables peut être monétisée et dans la limite, comme d'ailleurs pour les RTT, de 5 jours maximum par salarié. Et dernière précision Mathieu, cette mesure exceptionnelle qui est rétroactive s'applique sur la période du 12 mars au 31 décembre 2020.
Merci Roland Pérez. Votre question de droit tous les matins, juste après le journal de 6h30 sur Europe 1.
Europe 1. La matinale d'Europe 1 avec vous Mathieu Béliard.
Et les acteurs de l'actualité sont en direct sur Europe 1 le matin, vous le savez. La question du travail est à la une aujourd'hui, 7h40. Le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée sur une idée avancée par le secteur de l'industrie. Justement, à 7h40, je reçois Hubert Mongon, directeur général de l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. 8h15, la ministre du Travail Tiens, on va reparler du chômage partiel hein, ce matin, vous l'aurez compris. Et après Roland Pérez, vous avez peut-être des questions encore à nous poser ou à poser à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. L'interview de Sonia Mabrouk à 8h15. Les réponses à vos questions ensuite, vous les posez déjà au 3921 et sur le hashtag Europe 1. Tout de suite, nous sommes ravis d'accueillir, c'est tout autre chose, mais ça fait du bien, vous allez l'entendre. Le tout premier lauréat du tout nouveau prix littéraire Europe 1 GMF, Carla Derold et son livre Le Théâtre des Nuits chez Stock. Il a reçu son prix hier soir hein, et il est sur Europe 1 ce matin. À tout de suite.
Il est 6h41, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, le premier lauréat du prix littéraire organisé par Europe 1 et la GMF, Carla Derold.
C'est le tout premier, hein, que vous aurez votre nom tout en haut de la liste des lauréats de ce nouveau prix. Bonjour et félicitations Carla Derold.
Merci beaucoup.
Merci d'être avec nous. Le Théâtre des Nuits, c'est chez Stock. On va donner envie à nos auditeurs ce matin, envie de lire. Le contexte de votre roman, la Première Guerre mondiale, Paris et le front pour le décor et la rencontre... de deux mondes, quelque part. Mais d'abord, c'est un fait historique, hein, c'est ça. Des comédiens et des comédiennes ont été envoyés auprès des soldats pour jouer, pour les divertir.
Oui, oui, tout à fait. Ça s'est vraiment passé. C'est à partir de 1916, c'est la Comédie française qui a décidé d'organiser des tournées au front pour remonter le moral des troupes.
Pour remonter le moral des troupes, elles en avaient besoin. 1916, évidemment, vous resituez bien. On découvre avec vous et avec Blanche, votre personnage, comédienne, qui galère, qui se laisse embarquer dans l'aventure, dans une histoire d'amour aussi, hein. Pourtant, c'était interdit. Hein. Soldats et comédiennes ne devaient pas se croiser plus que ça.
Tout à fait. Oui, l'état-major avait très peur de ces contacts. Et donc, il avait interdit toute rencontre entre les comédiennes et les soldats. Évidemment, concrètement, c'était assez difficile de l'empêcher.
En tout cas, de le vérifier, on le découvrira dans le livre, évidemment. Un autre critère, tiens, les comédiens. Ça, j'aime beaucoup ce détail. Les comédiens ne devaient pas être trop jeunes.
Et oui, parce que sinon, ils devaient partir comme soldats. Donc, le fait d'être sur une scène de théâtre... en ayant l'âge d'être incorporé, ça risquait d'énerver un peu les soldats qui étaient spectateurs dans la salle.
Alors Nicolas Carreau nous le racontait dans le journal de 6h, Carla Derold, vous êtes historien, et ça je l'ai vu par ailleurs, et fils de comédien.
Oui.
Oui. Qu'est-ce qui se jouait sur le front? Pas forcément du théâtre de propagande.
Non, non, non. Au contraire, ils avaient très peur de faire encore du bourrage de crâne, comme on disait à l'époque. Donc, ils ont joué plutôt des pièces de vaudeville, des petites pièces légères avec des amants dans le placard, des maîtresses infidèles. Ce qui était pour des soldats qui étaient privés de femmes depuis 2 ans, un peu paradoxal, mais bon, manifestement, le répertoire a plu.
Oui, il ne fallait peut-être pas leur rappeler qu'il y avait des amants dans le placard. Cela dit, tout le monde était sur le front, tous les hommes valides évidemment. Il y avait un esprit aussi de mobilisation pour ces comédiens, de soutien des troupes. Je pense notamment à un personnage qui est réel, mais qui est un personnage de votre roman de fiction, Sarah Bernhardt.
Ah oui, mais Sarah Bernhardt, elle était vraiment engagée dans le combat, puisque quand elle a accepté de participer à ce théâtre, non seulement elle relevait d'une opération assez lourde, puisqu'elle avait été amputée d'une jambe, donc déjà, physiquement, c'était une performance, mais elle a déclaré qu'elle voulait tuer du Boche, elle voulait monter en première ligne pour faire le coup de fusil.
Oui, oui, c'était un engagement de ces comédiens, comédiennes aussi. C'est à lire, vraiment, on apprend plein de choses, surtout plein de faits historiques à travers ce roman. 17h30, vous étiez ici hier soir, Carla Derold, mais avec le Covid, la cérémonie, entre guillemets, c'était sur Facebook, en vidéo, sur le compte d'Europe 1, vous pouvez la revoir, un prix littéraire remis sur Facebook. Bon, ça c'est moderne d'une certaine manière, vous ne vous y attendiez pas forcément. Votre confinement, Carla Derold, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez travaillé, écrit, réfléchi au monde d'après?
Je dois dire que non, en fait, j'étais plutôt paralysé parce qu'en fait, c'est passé un truc paradoxal, c'est qu'habituellement, je suis le seul confiné puisque j'écris chez moi dans les temps normaux, et là, tout d'un coup, toute la société s'est retrouvée confinée avec moi. J'avais l'impression d'une intrusion dans mon intimité assez forte.
Qu'est-ce que vous faites là autour de moi?
Ouais, exactement.
Avec votre roman, on est dans la Première Guerre mondiale. Vous êtes historien, Carla Derold. Pourtant, c'est votre cinquième roman, je crois.
Oui, tout à fait.
C'est la première fois que vous traitez d'histoire.
Oui, parce que j'avais trop de respect pour l'histoire avant. J'espérais. Enfin, disons que j'avais peur de trahir un peu l'histoire. Et de fait, de m'accrocher à une anecdote réelle, un fait réel, m'a permis de me désinhiber et de me lancer dans cette aventure.
Et je disais, on est dans la Première Guerre mondiale. Je reviens sur un fait d'actualité. Le président disait on est en guerre. Là, je m'adresse à l'historien. C'est une guerre qu'on vient de traverser, Carla Derold ?
Ah non, je crois pas, non. Non. Mais bon, ça a le mérite de faire image et de mobiliser les énergies. Mais je crois pas qu'on puisse appeler ça une guerre, non.
En tout cas, pas comparé à cette période que vous racontez. Déboulonnage des statues, des héros de l'histoire déchue, vous savez, ce débat sur les personnages historiques. Je m'adresse à l'historien. Quel regard est-ce que vous portez sur ces débats, sur cette peut-être volonté de réécrire l'histoire ou de la réajuster ?
Ce qui est intéressant, c'est perpétuellement, la société cherche à réécrire son passé en fonction des enjeux du présent. Donc ça, c'est vraiment, me semble-t-il, la partie la plus intéressante. Déboulonner les statues, je pense qu'il y a d'autres combats prioritaires à mener avant de s'occuper de déboulonner les statues. Oui.
Revenons au roman, le prix littéraire européen GMF, un roman historique, un roman français. Où en est le rayonnement de la littérature française, Carla Derold? Maintenant, vous êtes devenu un champion. Avec ce prix, vous savez que vous avez le bandeau sur le livre. Vous êtes un de ces champions qui doit défendre la littérature française. Vous savez, je vous pose la question, je vais vous dire franchement. J'ai eu une conversation avec Nicolas Caro, que vous avez croisé du coup, et qui vous reçoit dimanche dans La Voix et Livre. Il me racontait cette anecdote, notre monsieur livre à Europe 1. Il disait que quand il interview un auteur américain, il lui demande systématiquement quels auteurs. Citez-moi deux auteurs français. Houellebecq sort tout de suite, et ensuite Flaubert. Non, mais vivant. Ah, non, j'ai pas. Où est-ce qu'on est passé, Carla Derold ?
On a un peu disparu des radars, mais je pense qu'il y a toute une nouvelle génération là en ce moment qui assez prometteuse. Enfin, en tout cas, moi, je vois parmi mes collègues des romans très intéressants et qui sont de nouveau romanesques, on va dire. Il y a un retour au romanesque dans la littérature française que je trouve
dans
très
style,
intéressant.
Dans le style,
vous voulez
dire ? Dans le style, dans l'écriture.
Voilà. Parce qu'on s'est un peu perdu dans les autofictions et dans les choses un peu réservées à quelques-uns. Et là, je trouve qu'il y a un grand retour au souffle, à l'aventure, au récit, qui, à mon avis, devrait être porter ses fruits. Là.
Lisez Carla Derold. Le Théâtre des Nuits, c'est chez Stock, la collection Arpège. Merci Carla Derold d'être passée par le studio d'Europe 1 ce
Merci
matin.
Merci à vous.
Au lendemain de ce prix, le tout premier prix littéraire Europe 1 GMF. On va vous retrouver en longueur dans La Voix et Livre dimanche à partir de 14h, l'émission littéraire d'Europe 1 avec Nicolas Caro. Merci mille fois d'être passé par le studio ce matin.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt. Lisez Le Théâtre des Nuits. Il est 6h48.
Europe 1. La revue de presse internationale à suivre sur Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une à l'étranger ?
Les États-Unis, la Hongrie et la Turquie. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard à 6h50, la revue de presse internationale.
Et oui, c'est l'heure d'ouvrir les fenêtres. Une fenêtre que nous ouvrons sur le monde tous les matins avec notre réseau de correspondants sur les 5 continents. Xavier Yvon est à New York pour Europe 1. Bonjour Xavier.
Hello Mathieu, bonjour à tous.
Ce qui fait parler chez vous, Xavier, c'est une épidémie de feux d'artifice.
Oui, et ça empêche les Américains de dormir depuis des semaines dans plusieurs grandes villes du pays. New York est vraiment la ville qui ne dort jamais, écrit l'historique Brooklyn Eagle, qui raconte comment les explosions des feux d'artifice amateurs ont remplacé les sirènes des ambulances du coronavirus. Le New York Times explique que le maire de la ville vient de créer une équipe spéciale de 40 personnes pour lutter contre ces feux d'artifice sauvages. Les plaintes pour nuisances sonores ont augmenté de 700% à Chicago, selon le Chicago Tribune, et les habitants de San Francisco n'en peuvent plus non plus, écrit le site local SF Gate. Tirer des feux d'artifice, ça a toujours été une tradition à l'approche du 4 juillet, mais cette année, c'est d'une ampleur jamais vue. Alors pourquoi ? Les journaux avancent plusieurs explications. Le désœuvrement pour cause de pandémie et des stocks d'engins pyrotechniques bradés faute de festivités. Mais ce mystère génère aussi son lot de théories complotistes, raconte The Atlantic. Comme celle-ci, le gouvernement tenterait ainsi de priver de sommeil les populations qui manifestent contre les violences policières.
Xavier, ils vont à New York. Et Xavier, tiens, vous allez rester à l'écoute ce matin, même s'il va falloir vous coucher un peu plus tard pour vous à New York. Anissa Mbida, juste après le journal de 7h, avec des feux d'artifice non polluants, réutilisables et silencieux. Voilà peut-être une petite solution au problème que vous venez de soulever. Cerise Fudry-Ledu est en Turquie pour Europe 1. Bonjour Cerise.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Turquie ?
On parle de farniente, car la Turquie entend bien démontrer que malgré le coronavirus, elle est prête à accueillir les touristes en manque de soleil. Le ministre du Tourisme est l'invité principal des chaînes de télévision et en a profité pour indiquer que des centres de tests seront installés dans tous les aéroports. Des journalistes ont même été invités à constater la mise en place des gestes barrières dans un hôtel luxueux. Au menu, distance sociale avec les autres vacanciers ou désinfection systématique des chambres. Et peu importe si les cas de coronavirus repartent à la hausse dans le pays, le journal Gazete Duvar rapporte même l'histoire de ces commerçants de Gizre dans le sud-est de la Turquie qui se sont imposés un couvre-feu volontaire pour faire face à la situation. Mais pour le ministre de Tourisme, la Turquie est le pays le mieux préparé pour accueillir les voyageurs.
Merci Cerise. En Turquie, Joël Lepavou, c'est en Hongrie pour Europe 1. Bonjour Joël.
Bonjour Mathieu.
À la une en Hongrie.
Une opération séduction au parfum d'aubaine, Mathieu. L'armée hongroise profite en effet de la crise du coronavirus pour recruter les chômeurs privés de leur travail par l'épidémie, écrit le journal Népszava. Alors le salaire ne crève pas le plafond, 300 euros net, l'équivalent national du SMIC, mais l'assurance d'un emploi stable, après 6 mois de formation dédiée aux 18-50 ans, pourrait convaincre certains d'entamer une carrière militaire, précise Mirsay. Particularité du programme, débutant le 1er juillet, les réservistes peuvent partir à tout moment s'ils trouvent une occupation dans le civil. Près de 1200 aspirants auraient postulé en avril et en mai, le double de l'an dernier à la même période, selon les chiffres officiels cités par AVG. Reste à savoir si l'engouement perdurera une fois l'effet Covid passé.
Joël Lepavou, merci beaucoup. La Hongrie, la Turquie et les États-Unis, c'était la revue de presse internationale. C'est tous les matins sur Europe 1 à 7h10.
Europe 1. Le journal de 7h présenté par Hélène Zélani et à suivre également la météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1. Europe 1, il est 6h56, Mathieu Béliard.
Jeudi 25 juin, bon réveil à toutes et à tous avec la rédaction d'Europe 1. Ensemble, vous le savez, on écoute le monde changer. Et c'est le travail qui est à la une ce matin. Votre travail, le travail d'après-confinement, le travail au début d'une crise économique qui s'annonce des plus dures. Tiens, simplement, 7h50, l'opinion de Nicolas Béthou ce matin sur les prévisions du FMI, le Fonds Monétaire International. 12,5% de récession annoncée pour la France. Il est temps de se remettre au travail, nous dira Nicolas Béthou. Alors, justement, quel travail? Comment sauver des emplois? Comment s'assurer qu'on ne va pas perdre des talents, perdre des connaissances, des savoir-faire avec un chômage de masse? Eh bien, pour sauver l'emploi, pour espérer repartir vite lorsque les carnets de commandes se rempliront à nouveau, ce nouveau dispositif de chômage partiel longue durée dévoilé hier soir, 7h40, il a inspiré la mesure. Hubert Mongon, le président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Il nous dira aussi quels engagements il peut prendre en termes d'emploi, parce que ce dispositif, il n'est pas contraignant, si ce n'est qu'il doit être validé par un accord avec les partenaires sociaux. 8h15, la ministre du Travail, c'est le même thème. Muriel Pénicaud au micro de Sonia Mabrouk. Muriel Pénicaud qui répondra ensuite à vos questions en direct. Vous les envoyez déjà sur le hashtag Europe 1. Le chômage partiel, mais aussi les règles de sécurité sanitaire assouplies en entreprise. Reprise de l'activité. Vous vous posez des questions. Vous êtes salarié, vous êtes gérant, DRH, patron. Posez ces questions à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur le hashtag Europe 1. À la une aujourd'hui, nous revenons sur l'audition du professeur Didier Raoult, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Il continue à défendre son traitement à l'hydroxychloroquine et il cogne fort sur le conseil scientifique, qu'il accuse clairement de collusion avec les industriels de la pharmacie. C'est à la une du journal de 7h. À la une également, 6 milliards d'euros mis sur la table par le ministre de la Santé dans le cadre du Ségur de la Santé. On va détailler ce matin. Et puis toute cette semaine, la culture est à l'honneur sur Europe 1. C'est presque un hasard de calendrier. Mais le cinéma qui déconfinait lundi, nous étions avec le réalisateur Olivier Nakache. Le théâtre hier avec l'immense Nils Arrestrup qui nous a fait le plaisir d'une interview. Il y a un quart d'heure, même pas, je recevais Carla Derold, le lauréat du tout premier prix littéraire Europe 1 et GMF. Tous les jours, vous le savez, votre rendez-vous culture, c'est à 7h50. C'est Périscope avec Jean-Philippe Ballas qui vous emmène à Vienne, mais pas pour valser. Je l'attends ou pas? Oublie une blind test.
Grégory Porter.
Oh là là, allez, facile. Grégory Porter et le festival Jazz à Vienne entre live, bien sûr, et festival numérique du 20 juin, ça a démarré, au 19 juillet. C'est dans Périscope à 7h50 tout à l'heure sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et l'heure de vous dire que sur la France, tout se passe bien. La France est dégagée, il n'y a pas de d'orage. On voit les orages arriver quand même dans le golfe de Gascogne. On en voit un petit peu au nord de l'Espagne, en Cantabrie, il y en a. Et puis ces orages vont arriver, ils vont progressivement se promener sur notre pays et envahir dans le courant de la matinée la Bretagne, la Loire-Atlantique, les Charentes-Maritimes plus exactement, l'Aquitaine, le Piémont Pyrénéen. Et ce soir, la Normandie, la vallée de la Loire, les Cévennes, le Limousin et peut-être la région parisienne. Un coup de tonnerre n'est pas à exclure. Ailleurs, le temps sera beaucoup plus calme, beaucoup plus ensoleillé et surtout très chaud pour tout le monde, avec des valeurs à Pithiviers-Nemours de 36 degrés, 35 à Paris, Lyon et Bourges, 35 à Nevers, 34 à Nevers, ou 35 comme vous voulez. Vous n'en êtes plus à un degré près à ce niveau-là. 32 à Bordeaux, 31 à Nancy, 28 à Brest. Bon, ce sont des températures extrêmement élevées. Alors demain, vendredi, ça ira un petit peu moins bien en ce qui concerne la couleur du ciel, puisque les orages vont afficher leur mauvaise humeur le matin sur le Hauts-de-France et en fin de journée sur les Pyrénées, le Massif central et la Bourgogne. Ça commence à aller mal. Et puis ensuite, ce samedi, on en reparlera tout à l'heure, mais les températures vont vraiment baisser.